Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. C'est pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans nos petits coins que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes et aujourd'hui, en cette émission du 7 mai 2026, nous revenons sur la journée du 1er mai en vous diffusant deux reportages, l'un réalisé à Paris et l'autre à Marseille. Mais avant cela, nous souhaitions faire un petit point d'histoire.
S'il y a bien un jour férié que les travailleurs doivent à l'anarchisme, c'est bien le 1er mai. Et tous ceux qui appellent ça la fête du travail, c'est vraiment des enfants de pétain. Tout commence il y a presque tout pile 140 ans, le 1er mai 1886, aux USA. Début d'une grande grève générale pour réclamer la journée de 8 heures à l'initiative des anarchistes et qui rassemblera 340 000 travailleurs. Quelques jours après le début de la grève, un rassemblement a lieu à Chicago. Après les différents discours, la foule commence doucement à se disperser. Mais pas assez vite pour la police qui décide de rentrer dans le tas. Et puis ils rentrent dans le tas comme des brutes. Il y aura deux morts et des dizaines de blessés. Du coup, les anars lancent un appel à la manifestation contre les violences policières. Et une grande marche a lieu le lendemain dans les rues de Chicago. Elle se termine à Haymarket Square. Elle traîne en longueur jusqu'à 22h. Et la police décide une fois de plus de charger violemment sur les manifestants pour les disperser. Sauf qu'à ce moment-là, quelqu'un jette une bombe sur la police en tuant un policier sur le coup. Ça se met à canarder dans tous les sens, il y aura 7 morts du côté de la police et impossible de savoir du côté des manifestants. 8 militants en tout seront arrêtés. Leur procès sera une vengeance abjecte de la classe dominante contre les anarchistes et tous les ouvriers en général. Déjà, dans les personnes arrêtées, certains n'étaient même pas là à la manifestation. Les aveux sont arrachés sous la menace et la plupart des preuves sont juste des faux. Sur les 12 jurés, aucun ouvrier. Ils avoueront tous qu'ils étaient déjà convaincus de la culpabilité des accusés avant même l'ouverture du procès. La peine n'avait donc aucune chance de ne pas être arbitrairement impitoyable. Après des réquisitoires visant à faire des accusés des exemples pour tous ceux qui feraient l'affront de vouloir améliorer leurs conditions de vie par la grève, le verdict tombe. Sur les 8, 7 seront condamnés à mort et 1 à 15 ans de prison. Deux condamnations à mort seront transformées en prison à vie et l'un des condamnés se suicidera en prison. Le vendredi 11 novembre 1887, qui sera funestement surnommé le Black Friday, les 4 anarchistes seront pendus devant un public de patrons et d'industriels qui auront été conviés par invitation, s'il vous plaît. Ce n'est qu'en 1893 que le nouveau gouverneur de l'Illinois, John Peter Altgeld, avouera que ces débordements étaient de la faute de la brutalité policière et les innocentera à titre posthume. Certains pensent même que ça pourrait être la police ou les détectives de l'agence de privé Pinkerton à la solde des industriels qui pourraient être à l'origine du lancement de la bombe. Mais il n'y a pas de preuves. Suite à ça, d'autres pays choisissent de prendre symboliquement le 1er mai pour lancer les journées de grève afin d'obtenir la journée de 8 heures. Comme en 1891, à Fourmies, qui se terminera en boucherie, puisque les forces de l'ordre assassineront 10 personnes, dont 2 enfants. C'est pendant l'entre-deux-guerres, le 23 avril 1919, que le Sénat français ratifiera la journée de 8 heures et fera du 1er mai un jour non travaillé. Puis c'est sous Pétain que changera en 1941 le nom de Fête des Travailleurs en Fête du Travail. Ce jour deviendra férié et donc payé sous l'impulsion de René Belin, secrétaire d'État au travail et dirigeant de la partie anticommuniste de la CGT. C'est aussi à cette époque que l'églantine rouge portée à la boutonnière par les manifestants sera remplacée par le muguet, le côté rouge étant trop identifié à gauche. À la Libération, la fête du travail sera supprimée, puis reviendra en 1947, toujours férié, mais sans nom officiel. Aujourd'hui, on utilise souvent le nom de Journée internationale des travailleurs et des travailleuses. Car ne l'oublions pas, ce jour est un hommage à des gens qui sont morts dans un combat contre la bourgeoisie afin de limiter l'exploitation de l'humain par l'humain.
Et vous êtes toujours dans l'actualité des luttes. On vous diffuse maintenant le reportage réalisé à Paris le 1er mai 2026.
Dans les rues parisiennes, les travailleurs chantaient. Nos salaires sont trop faibles. Il faut les augmenter.
Parce qu'ils veulent qu'on baisse la tête, ils veulent qu'on se taise, ils veulent pouvoir exploiter le monde du travail, la jeunesse, et qu'on ferme nos bouches, et pour ça ils répriment. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à l'université de Nanterre ? Nous on se bat, comme le disait mon camarade Julien, pour inscrire les sans-fac qui sont des jeunes qui ont été refusés à l'entrée de l'université. On se bat par des mobilisations depuis des années pour les inscrire. Et bien qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait une campagne de tract. Et bien je me retrouve avec un procès. Pour cette raison, j'ai été convoquée à la brigade de la délinquance et de la répression à la personne pour avoir diffusé des tracts et avoir collé des affiches qui dénoncent la politique de sélection sociale de ma présidente de l'université. Que ça soit dans les entreprises, là, la CGT a annoncé qu'il y a 1000 CGTistes qui sont concernés par la répression. Il faut qu'on arrête de faire uniquement le tour des commissariats en commissariat, de rassemblement en rassemblement, mais qu'on se regroupe autour d'une table, qu'on regroupe nos forces et notre colère contre la répression et qu'on leur montre qu'on n'acceptera pas toute cette politique. Et bien, ça se passe le 20 juin. Manifestation nationale à 15h devant le siège de la Banque Postale métro Duroc, et ça ira jusqu'au ministère du Travail en passant par le ministère des Affaires étrangères. Merci à vous en tout cas les camarades.
Donc ce 1er mai 2026, on est à Paris comme chaque année, c'est la fête de la lutte des travailleurs et non pas la fête du travail. Enfin, je crois qu'il faut bien le rappeler. Alors cette année c'est un peu un contexte particulier puisque le gouvernement veut essayer de que cette journée de lutte soit une journée comme une autre, c'est-à-dire travailler alors que c'est une journée chômée qui a été gagnée, il faut le rappeler quand même. Et là, je suis avec une étudiante de Nanterre et donc j'aimerais bien un peu qu'on fasse un point sur ce qui est en train de se passer actuellement pour vous.
Oui, bien sûr, moi je suis syndicaliste à l'UNEF Nanterre. En fait, là, ce qui se passe dans les universités, c'est malheureusement à la lumière de la politique qui est menée par le gouvernement dans l'ensemble des services publics, notamment avec les coupes budgétaires. À l'université de Nanterre, c'est un quart du budget de la fac qui est supprimé. Voilà, c'est une attaque historique. On n'a jamais eu autant de coupes budgétaires. Ça veut dire des suppressions de places en licence, en master, une augmentation de la sélection. Ça veut dire des filières aussi qui vont fermer entièrement. Et ça, en fait, pourquoi ? Pour faire des économies sur notre dos, alors que de l'argent, en France, il y en a énormément. Mais quand on voit Macron qui nous parle d'un porte-avions à 10 milliards d'euros, mais qui nous dirait après qu'il n'y aurait pas assez d'argent pour construire des places à l'université ou même d'ailleurs dans les lycées, dans les collèges, etc. En fait, on comprend bien quel est l'objectif du gouvernement derrière tout ça. C'est en fait de nous faire payer, nous, leur guerre. La guerre qui mène aujourd'hui partout, la guerre au Moyen-Orient, mais le soutien aussi que le gouvernement français apporte à ça. Et c'est la guerre sociale qu'ils veulent nous faire payer, l'augmentation du prix de l'essence alors que les salaires, ils n'augmentent pas. Donc en fait, on a très bien compris quel était leur petit jeu. Et là, il y a une nouvelle pépite de la part du gouvernement qui veulent avancer dans les universités en France. C'est la loi Bienvenue en France. Ils ont essayé de la mettre en place en 2018-2019. Et en fait, ça avait créé un énorme mouvement de grève et de mobilisation dans les facs. Et on avait gagné le retrait de cette réforme. C'est très simple. C'est en fait l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers et les étudiantes étrangères. Où en fait, ils paieront 2000 euros une année de licence, 3000 euros une année de master. Donc évidemment, c'est une réforme qui est extrêmement raciste. Parce que ça veut dire qu'on a les mêmes études, mais on n'a pas les mêmes droits. Mais non seulement c'est raciste, mais en plus, c'est profiter de cette occasion pour ensuite le généraliser à l'ensemble des étudiants et des étudiantes. Voilà comment ils veulent continuer à faire de l'argent sur la jeunesse qui est déjà précaire et de plus en plus précarisée. Donc nous, contre ça, on pense qu'évidemment, ce qu'il faut, c'est une énorme grève générale en France contre toutes ces questions-là et construire des mobilisations dans les universités, certes à la rentrée, mais dès maintenant, il faut qu'on saisisse de la date du 12. Le 12 mai, c'est une date de mobilisation nationale appelée par l'intersyndicale des enseignants, des personnels, mais aussi les syndicats étudiants, le 12 mai, contre la loi Bienvenue en France. Il faut qu'on soit nombreux et nombreuses, évidemment.
Qu'est-ce que représente pour toi le 1er mai en tant que jeune ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le 1er mai ?
Pour nous, c'est important, les jeunes, de venir le 1er mai, y compris parce qu'on est dans un contexte où le patronat et la bourgeoisie, les gouvernements, les patrons, ils sont prêts à tout pour en fait nous exploiter de plus en plus. On le voit chez les jeunes dès maintenant dans les facs, mais on sait aussi que nous, jeunes, quand on arrivera dans le monde du travail, ce qu'ils vont faire, c'est dégrader de plus en plus nos conditions de travail. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises et la répression qu'ils mettent en place. Et donc pour nous, on a compris, on doit être une génération de jeunes qui se laissent pas faire et qui laissent pas le gouvernement nous enchaîner avec des conditions de travail difficiles, la guerre et des salaires bas. Donc le 1er mai, c'est un moyen de se regrouper, la jeunesse, l'ensemble du monde du travail, peu importe nos secteurs, nos étiquettes syndicales.
Ou pas d'ailleurs, c'est les chômeurs.
Oui, tout à fait, exactement. Avec ou sans emploi, travailleurs avec ou sans emploi, très important, pour en fait se regrouper ensemble Discuter aussi de comment est-ce qu'on construit un rapport de force. Le 1er mai, il doit nous servir à ça quand même, de discuter de comment on a un plan de bataille pour construire un rapport de force face à ce gouvernement et qu'on arrête d'enchaîner juste des solidarités, etc., dans des luttes qui sont isolées, mais qu'on regroupe tout ça et qu'on construise une grève générale. C'est ça qui nous attend. Et la jeunesse, il faut aussi qu'on soit aux avant-postes de tout ça.
Qu'est-ce que tu penses du tour d'entourloupe qu'essaye de faire le gouvernement sur le 1er mai ?
C'est qu'en fait, ils sont prêts à tout pour essayer à la fois de nous attaquer, mais de s'assurer qu'on ne puisse pas réprimer et répondre et riposter face à tout ça. Et les manifestations des 1er mai, bah, ça les fait chier parce que c'est des manifestations massives qui regroupent tout le monde et qui, historiquement, parfois ont pu avoir un impact extrêmement important et ont pu être le début de grandes choses. Et je pense que le 1er mai, ils veulent l'attaquer parce qu'en fait, ils veulent attaquer de manière générale les luttes des travailleurs, des travailleuses et de la jeunesse. Et ils pensent qu'ils arriveront à nous empêcher de manifester, à nous empêcher de nous regrouper. Bah en fait, il faut qu'ils comprennent que plus nous attaquerons, plus ils attaqueront le 1er mai, plus ils nous donneront envie de regrouper, de riposter, de regrouper les luttes et de frapper ensemble parce qu'on ne lâchera jamais face en fait, à la politique aujourd'hui qu'ils essayent de nous mener. Voilà.
Bah écoute, je te remercie.
Salut Benoît.
Salut.
Comment tu vas?
Bah ça va, bonne journée, 1er mai, il y a du monde, il fait beau.
Pourquoi t'es là, Benoît?
Bah pour manifester, pour défendre nos droits, pour montrer qu'on est puissants et nombreux, et parce que c'est fun aussi.
Ce qui est bien, c'est que là, le cœur de cette journée, c'est vraiment le travail, le droit du travail et les travailleurs. Du coup, c'est aussi bien parce que, dans plein de secteurs différents, on peut constater que le rapport au travail est compliqué. Il y a de plus en plus de questions sur trouver un bon contrat, trouver des bonnes conditions de travail, y rester et ne pas quitter, enfin... Moi, je bosse dans la culture, c'est compliqué, il y a beaucoup de burn-out.
C'est quoi dans la culture ?
J'organise des festivals et je bosse pour des compagnies administrateurs, quoi, globalement.
Ah oui, ok, t'organises des festivals, c'est chaud en ce moment pour les festivals,
non ? Ouais, c'est chaud pour les festivals et c'est chaud pour les compagnies aussi, hein, parce que je fais un peu pour tout le monde, mais globalement, les budgets se réduisent, en fait, hein, des collectivités et de l'État... Il y a des arbitrages de plus en plus compliqués, notamment politiques, pour le fait de devoir s'exprimer ou pas. S'exprimer, ça veut dire peut-être se mettre en porte-à-faux par rapport à un financeur et du coup avoir moins de subventions. Parce que c'est en fait les premiers financeurs de la culture, c'est les collectivités. Hein. Et le fait que les financements se baissent, les tensions en fait vont se diluer à un moment quelque part. Souvent, elles viennent du haut. On serre le robinet.
Ouais.
Sauf qu'à la fin, c'est les travailleurs qui trinquent. Parce que du coup, c'est les ambiances de travail dans les collectifs qui se détériorent. C'est des patrons qui sont de plus en plus exploitants, en fait, et toxiques. Et c'est des gens qui doivent rester parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est la galère à l'extérieur. Mais voilà, il faut réussir, malgré tout, dans cette situation, à inverser le rapport de force, en fait, parce que c'est nous qui travaillons, donc c'est aussi à nous d'impulser nos conditions pour travailler.
Bon, magnifique, Benoît. Merci beaucoup.
Bah, de rien, hein.
Et à travers le 1er mai, on défend toutes les luttes. Nous ne sommes qu'un maillon de la longue chaîne de lutte de notre classe à travers le monde pour faire de ce 1er mai un jour férié et chômé. Nos camarades, les travailleuses et les travailleurs de Chicago en 1886 ont montré la voie le 1er mai en luttant pour la journée des 8 heures, pour la réduction du temps de travail. Nos camarades à Fourmies, nos camarades à Liévin, nos camarades qui sont morts frappés, battus, assassinés par la police parce qu'ils défendaient l'identité de classe, l'identité de la classe ouvrière et la nécessité de notre visibilité pour la défense de nos droits. Aujourd'hui, nous sommes un nouveau maillon de cette chaîne. Nous défendrons pour jusqu'à la dernière énergie le 1er mai comme jour férié et chômé. Alors évidemment, notre revendication essentielle, et on l'a dit, dans notre département qui est le plus industriel d'Île-de-France, dans lequel il y a le plus d'industries d'armement, c'est la démilitarisation de l'économie. À Thalès, au lieu de faire des visées laser, on peut faire de la chirurgie de pointe. Chez nos camarades qui fabriquent des automobiles, on ne veut plus faire de drones de combat. On veut faire des voitures pour la mobilité de la classe populaire, des voitures accessibles à tous, écologiques, hybride ou électrique. Dans l'éducation, on ne veut plus enseigner les gens dans les souvenirs de la grandeur de la France et de sa puissance coloniale. On veut former des citoyens ayant un recul sur l'histoire, la littérature, sur la sociologie, sur la vie. Nous voulons promouvoir une économie de vie face à la machine de mort. Nos gares ne sont pas des lieux de militarisation de l'économie. Nos usines doivent être au service des besoins populaires et pas des besoins pour la guerre. L'argent doit être mobilisé pour les salaires, pour les emplois, jamais pour les actionnaires et surtout jamais pour la guerre. Donc aujourd'hui, nous sommes les descendants de ceux qui ont construit ces machines, qui ont bâti ce pays. Nous devons aujourd'hui avancer l'idée que ces usines, ces entreprises, elles sont à nous. Nous sommes la majorité. Nous sommes ceux qui créons de nos mains, de nos cerveaux, de notre habileté, toutes les richesses du monde. Donc il devrait revenir à nous, la classe ouvrière, de le gouverner.
Voilà donc eh bien, ce 1er mai 2026, c'est la fête des luttes des travailleurs et travailleuses. Et justement, eh bien, on est bien placé aujourd'hui puisqu'il y a une grève qui a débuté au mois de mars, le 2 ou le 3, en début mars 2026, au 65 boulevard de Strasbourg, au salon de coiffure. Et je suis avec une des grévistes. Alors, vous avez déjà eu le plaisir d'entendre les grévistes dans notre émission L'actualité des luttes, mais c'est peut-être l'occasion de faire le point où vous en êtes sur cette grève actuellement au 1er mai.
Moi, c'est Coco du 65 boulevard de Strasbourg, coiffeuse en lutte depuis le 3 mars. Et ça fait 60 jours maintenant que nous sommes en grève. Et sur le point de notre grève, et, Dieu merci, ça sont en train de se. Il y a des situations qui sont en train de s'ouvrir. Il y a des trucs qui sont en train d'être mis en place. Ouais, il y a des négociations qui sont en train d'être mises en place, pas du côté du patron, mais du côté administratif et tout. Donc, on espère que tout le monde sera régularisé et tous nos salaires seront remboursés et tout ce qui en suit, quoi.
Comment ça se passe, la grève actuellement? Comment vous organisez sur la grève?
Pour la grève, nous sommes là, tous les grévistes sont là tous les matins. Et jusqu'au soir, à partir de 20h, on se relaie pour dormir. Il y a d'autres qui passent la nuit et d'autres qui rentrent. Et après, on reprend encore. On s'échange pour ne pas fatiguer et pour avoir toujours la force de tenir.
Rappelons un peu ce qui est en train de se passer justement dans ce salon de coiffure.
Il y a notre patron qui nous escroque 250 euros par mois pour des fiches de paie et un contrat de travail. Et pour ceux qui n'ont... Il nous prenait 250 euros par mois pendant 5 ans pour des fiches de paie et un contrat de travail. Ensuite, il y a aussi, comment on appelle ça ? Il y a aussi des aérés de salaire qui n'ont pas été payés. Et il y a aussi des heures supplémentaires qui n'ont jamais été payées. Et il y a des contrats de travail aussi qui étaient faux, les fiches de paie étaient faux. Donc c'est par rapport à ça que nous avons décidé de nous mettre en grève.
Et là, vous dites donc qu'il y a des négociations qui ont été ouvertes. Elles sont ouvertes avec qui? Puisque visiblement, le patron, il a l'air de se faire un peu tirer l'oreille quand même. Hein.
Oui, le patron, on ne le voit pas, mais c'est avec la CGT et l'administration. Et aussi, il y a l'inspection du travail qui est venue faire son bilan, qui a inspecté avec les produits chimiques qu'on utilisait et tout, qui ont fait leur rapport et... Et là, notre lutte, c'est pour la traite des êtres humains maintenant.
Le nombre de grévistes a toujours été au même niveau?
Oui, on est toujours le même nombre de grévistes. Nous sommes 13 grévistes, 4 hommes et 9 femmes.
Sur combien?
Surtout, on est tous en grève.
Donc, salon de coiffure qui ne marche pas?
Oui, le salon de coiffure est mort depuis le 3 mars. Il ne marche pas.
Est-ce qu'il y a des gens autour qui sont venus un petit peu vous soutenir, d'autres salons de coiffure peut-être?
Oui, il y a d'autres salons de coiffure qui sont venus nous soutenir. Il y a des riverains aussi qui sont venus nous soutenir, qui viennent tous les jours, ils nous soutiennent avec un peu de sous, avec un peu de paroles et d'encouragement. En tout cas, on est vraiment soutenus.
Quelque chose à rajouter qu'on aurait oublié?
Ça va, c'est bon.
Je vous remercie.
Merci à vous.
Bonjour Muriel, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci.
Ok. Toi, t'as l'habitude de venir le 1er mai ou...
Oui, bien sûr. Oui, tous les ans, depuis longtemps.
Et toi, tu te sens concernée en ce moment par une lutte en particulier ou...
Les deux points qui me font très très mal, c'est la Palestine et Cuba.
Ah oui.
Voilà, donc là, c'est...
Cuba, dans le sens où prochainement, il va y avoir une intervention et les craintes, c'est ça?
Alors, je suis allée pour la première fois l'an dernier à Cuba. Il y avait des coupures d'électricité déjà 2-3 fois par jour, enfin, avec des problèmes pour se déplacer, etc. Donc là, ce que fait Trump, moi, ça me fait très mal au cœur parce que j'y suis allée et j'ai vu, quoi. Enfin, il n'y a plus de pétrole, quoi, donc c'est impossible de vivre.
Et tu me disais la cause palestinienne aussi.
Et la cause palestinienne aussi, oui. Moi, je suis très, très gênée que la France ait cette image et n'arrive pas à parler de génocide. Enfin, je pense que le gouvernement d'Israël n'est pas représentatif des Juifs du monde.
Moi, j'ai croisé des organisations juives dans les cortèges. C'est bien que la question israélienne n'est pas, pas liée à la...
Ouais, à la judiété, oui, tout à fait.
C'est ça. Ouais. OK, et toi, tu te sens mobilisé par des causes plus nationales, parce qu'on sait qu'il y a eu des municipales.
Alors oui, j'étais sur une liste. Mais à Aulnay-sous-Bois, on n'a pas réussi à inverser la tendance. C'est un maire de droite qui a réussi à faire le consensus autour de lui, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule liste.
C'est un maire de droite plutôt...
LR.
Pourtant, c'est assez étrange, parce que la dynamique en Seine-Saint-Denis, il y a eu beaucoup de maires nouvellement élus,
ouais,
nouvelles figures.
Ouais, oui.
Pourquoi pas à Aulnay?
Alors, je pense qu'il y a des villes, il y a certaines villes en Seine-Saint-Denis où les choix des maires ont été de rendre les villes un petit peu plus... Enfin, il y a une forme de gentrification dans certaines villes d'Aulnay. Et quand on va au centre-ville d'Aulnay, c'est très bourgeois. C'est très... Il y a des magasins qui vendent de la truffe. Et je pense qu'il y a une forme de... Je pense qu'il a réussi à attirer des personnes qui souhaitent avoir des maires très sécuritaires. Alors, il y a caméras... policiers armés, police municipale armée. Il a accès en disant que si la gauche passait, il y aurait des augmentations d'impôts. En fait, il est obligé d'augmenter les impôts parce que de toute façon, il n'a pas le budget.
D'accord, c'est marrant parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler de la gentrification de Montreuil, de Pantin.
Je pense qu'il va y avoir un peu une scission dans le 93 avec des villes dans lesquelles on a envie de vivre la mixité.
D'accord.
Et donc, et tout type de personnes, que ce soit des gens, des cadres ou pas des cadres, vont aller vivre dans ces villes.
D'accord. Est-ce que tu penses que la question sécuritaire, elle a plus d'impact à Aulnay? C'est quand même une ville où il y a beaucoup de quartiers populaires.
Ah ben oui, énormément. C'est une ville très jeune. C'est une ville qui avait voté en majorité pour la candidate LFI aux dernières élections
législatives.
50% dans tous les bureaux de vote.
Ah oui, d'accord.
Donc on n'a pas compris, en fait. Mais pour la mairie... En fait, ils ont leur maire qui s'occupe d'eux, qui les... Je sais pas. Enfin, il y a quand même moins de 50% de gens qui sont allés voter, quand même.
D'accord.
Mais là-dedans, il y a eu quand même 63% qui ont voté pour lui.
D'accord.
Ah, quand même, le dernier point que je voulais dire, c'est qu'effectivement, dans les médias, il y a un vrai souci. C'est que les médias détenus par les milliardaires, c'est un vrai problème, quoi.
Oui, tu veux dire qu'il y a une... propagande.
Ah oui, ouais, complètement. Ah oui, oui, la Bolloré, il a réussi son coup. Ah oui, ça c'est... Okay.
Donc, merci beaucoup, Muriel. Je te laisse profiter de la suite de la manif.
Merci beaucoup. Bon courage.
Contre les guerres impérialistes.
Lutte des classes internationalistes.
Contre les guerres impérialistes.
Lutte des classes internationalistes.
Alors, on est toujours à la manif du 1er mai. Et on se retrouve avec... un stop au campus IA, donc il y a des jeunes gens qui distribuent un tract d'information contre les data centers à Fougeux, en Seine-et-Marne. Tu peux nous en dire un peu plus ?
Bien sûr, alors ce projet qui s'appelle Campus IA a bien évidemment rien d'un campus et tout de l'IA, puisque ce serait un campus sans étudiants. Ce serait en fait le plus gros parc de data center d'Europe, avec la capacité, la puissance électrique d'une centrale nucléaire. Et donc, bien évidemment, on condamne le remplacement et la destruction des emplois par l'intelligence artificielle et l'ensemble des conséquences environnementales et sociales de ce type de projet. Et pendant un mois, depuis hier, une enquête publique a ouvert qui va permettre à l'ensemble... des citoyens de se mobiliser pour donner leurs arguments contre Campus IA. Donc nous distribuons des tracts avec plein d'arguments différents qui résument toutes les raisons pour lesquelles on doit se mobiliser contre la prolifération des data centers en Ile-de-France et dans toute la France plus largement.
D'accord, ok,
OK. Et donc, il y a une enquête publique, hein, c'est ça qui est ouverte. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'aller et dire qu'on n'est pas d'accord. Hein, comme ça, au moins, ils ne pourront pas dire qu'ils avaient l'assentiment de la population autour de leur projet de merde.
Exactement.
Donc, voilà.
On peut renvoyer directement registre numérique en tapant Campus IA. IA comme intelligence artificielle, et on tombe directement sur le plan de dépôt pour pouvoir déposer sa contribution personnelle, et tout le monde peut le faire sur Internet en tapant enquête publique Campus IA.
Ok, ça c'est le minimum, et tout ça se passe entre le 30 avril et le 30 mai.
Et on organise un pique-nique festif le 24 mai à Fougeux, en Seine-et-Marne. Tout le monde est invité. Il y aura un convoi vélo depuis Paris en passant par Melun. Il y aura des navettes, tout pour s'y rendre. Voilà.
Merci beaucoup.
Ok, salut Paul, comment tu vas?
Salut, ça va, tranquille. J'ai jamais loupé un 1er mai, donc je vais pas commencer.
Jamais, jamais, depuis quand?
Depuis 2007.
T'étais au lycée?
Ouais, j'étais lycéen.
Ok, ok. Et là, actuellement, tu fais quoi?
Je suis enseignant à l'université. J'enseigne la sociologie, notamment la sociologie du travail.
Ok, carrément. C'est une journée pour toi, alors.
C'est une journée pour le peuple de gauche, ça, c'est évident.
Bah ouais. Du coup, c'est quoi? Tu viens avec le prisme de professeur, d'analyse ou coaching?
Non, en tant que militant, cette année, le 1er mai, on a connu des 1er mai où il y avait un message politique derrière un peu plus fort, au sens où c'était le moment de coordonner la rentrée sociale, le moment, le retour des mobilisations. On a bien vu que la situation politique est très bloquée. Il y a la perspective de la présidentielle d'un côté, le blocage institutionnel de l'autre, et la difficulté des derniers mouvements sociaux à avoir réussi à obtenir des choses. Donc on est dans un espèce de demi-teinte. Donc moi je viens le 1er mai parce que si les gens comme moi qui ont été militants toute leur vie viennent pas, c'est compliqué. Mais c'est dommage que j'ai pas l'impression que les syndicats ou les autres aient investi ce 1er mai d'un message particulier.
Tu penses que ça aurait été plus mobilisateur?
Je sais pas, je dis juste que le fait qu'on n'est pas capable d'essayer, ça veut bien dire qu'en ce moment, on est dans une forme d'atonie stratégique. Parce que tout le monde est sur le qui-vive, on attend, on essaye de voir. Quand il y a des projets nocifs à l'Assemblée, il y a des pétitions, il y a des interventions de l'opposition de gauche, etc. Mais bon, ça fait un moment qu'on n'a pas interrompu le flot continu de l'agenda du pouvoir pour dire, bon, maintenant, on veut ça, quoi. Et le 1er mai, c'est souvent le point de départ pour plein de revendications plus tard, de mobilisations. Bon, là, j'ai l'impression qu'on a dit c'est le 1er mai, quoi. C'est un des problèmes du mouvement social ces dernières années, quoi. Il y a une forme de folklorisation de nos luttes.
Pourtant, il y a eu des luttes quand même cette année. Je pense qu'il y a eu Bloc Contou, il y a eu les mobilisations des agriculteurs.
Absolument, mais justement, Bloc Contou, c'était l'expression du fait qu'il y a des gens qui voulaient court-circuiter. Pas court-circuit, mais en tout cas, faire même si derrière les structures syndicales n'étaient pas sûres, pas pour essayer d'enclencher un mouvement, ce qui montre bien qu'il y avait cette envie de quelque chose de plus. Et que, ça a été des résultats modestes, mais intéressants. C'est-à-dire, sans les formes traditionnelles d'organisation, etc., tu as quand même une volonté, des comités, des gens qui ont fait de la politique, qui se sont rassemblés, qui ont discuté, qui ont fait des actions. Maintenant, où est le cap stratégique? Le mot d'or, le truc, c'est jamais facile, hein, je blâme personne, mais bon, on est quand même dans un truc où on voit bien, on est dans une espèce d'anesthésie de situation. Présidentiel d'un côté, blocage de l'autre.
Présidentiel, blocage, tu penses pas que la situation internationale, elle pèse aussi sur la saturation liée à tout ce qui se passe à l'international, pèse aussi sur, on va dire, la dynamique chez les militants ou même les citoyens lambda qui seraient enclins à se mobiliser s'il y avait une cause nationale forte en ce moment?
En tout cas, il y a effectivement une saturation. Je pense qu'on le voit d'ailleurs dans le cortège, il y avait pas mal de cortèges anti-impérialistes où le thème revient à la mode. Ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que, paradoxalement, avec l'horreur qui s'est passée à Gaza et la renaissance d'un mouvement palestinien, pro-palestinien fort en France, on a réenclenché des thématiques sur l'impérialisme, sur la colonisation, et c'est très important. Mais pareil, j'ai l'impression que, tu vois, moi qui connais bien la Palestine, j'y ai travaillé, j'y ai vécu. Dernièrement, on a vu un reflux de la question parce que le cycle médiatique l'a disparu. On parle de ce qui se passe, le Liban, l'Iran, etc. Mais c'est plus difficile comme terrain de mobilisation. Ça a été, je ne sais pas, en tout cas, effectivement, il manque il manque un mot d'ordre. Même si c'était un mot d'ordre international ou national, il manque quelque chose pour que...
Après, est-ce que c'est pas aussi la perspective de dire toujours à la présidentielle, finalement? Donc on n'a pas...
C'est un réflexe dans la politique française. On sait que c'est une élection qui compte. Les gens l'investissent plus massivement que les autres. Et en avant, quoi.
Merci, Paul. Un petit mot de la fin. Histoire 2, vu que toi, t'es prof, c'est pas peut-être sur la situation à la fac.
À la fac, la situation est au dépend catastrophique. Manque de moyens, conditions hyper précaires. 50% des enseignants dans ma fac, c'est des gens sans contrat ou qui sont vacataires ou contractuels avec des petits emplois précaires. On enseigne dans des conditions qui sont assez désastreuses. Rien que les salles, il y a des salles où ça ferme même pas l'hiver, on peut pas fermer la fenêtre, où il pleut dedans. Vraiment, l'université française est en train de se péter la gueule parce que on a autonomisé l'université pour que chacun gère son budget, ce qui a déresponsabilisé l'État sur le financement général au niveau national. Et
c'est à l'université de trouver des ressources, c'est ça ?
En partie, elles sont mises en concurrence par des systèmes d'autonomie, comme on a appelé ça. Et c'est une vraie galère. Une vraie galère. Mais bon, il faut faire le taf quand même. Il y a plein d'étudiants et d'étudiantes qui sont là pour se former et tout. C'est passionnant, mais juste les boulots passion, généralement, derrière, et les boulots voilà, qui ont un but social, pas directement économique, c'est pas là où ça se passe le mieux.
Ok. Bonne route.
Ouais,
dans la manif. Et à plus, hein.
À la prochaine.
Top, top.
Voilà, donc on est toujours dans la manifestation de ce 1er mai 2026. Et on va prendre la clé des champs, on va dire ça comme ça. Parce qu'apparemment, il y a une question, il y a une porcherie industrielle à Vassivière. Alors, qu'est-ce qui se passe par là-bas, dites-moi ?
Il y a l'entreprise Sirio qui voudra installer par l'intermédiaire de porteurs de projets qui sont deux agriculteurs qui vivent donc autour du plateau de Mille Vaches, du lac de Vassivière, et du coup qui vont installer une porcherie industrielle. Donc c'est 1200 porcs qui ne verront pas le jour et qui vont déverser du lisier sur à peu près 200 hectares autour du 800 hectares.
Ouais, enfin, il me semble, tout à coup, tu me mets le doute. Hein, si. C'est énorme. En tout cas, oui, c'est une porcherie industrielle. Ça veut dire que c'est de la souffrance animale. C'est la pollution de la terre, de l'air, avec des rejets ammoniaqués puissants, sans parler même du cadmium, et de l'eau. Et de l'eau, c'est-à-dire, nous, on est dans une zone humide hyper fragile. Donc c'est à la fois l'eau des lacs dont dépend beaucoup le tourisme, mais dont les habitants jouissent aussi en allant pêcher, se baigner, etc. Mais c'est aussi toute l'eau qui se déverse dans les petits cours d'eau, les petits ruisseaux, les rivières.
Et les sources, parce que nous, on a la chance de vivre dans une région où on peut boire l'eau du robinet et que cette eau est extrêmement peu traitée, en fait. Donc voilà, là, l'eau deviendrait même impropre à la consommation.
Et en fait, nous, on est là à Paris avec cette pancarte pour dire que ce qui se passe au lac de Vassivière sur le plateau de Mille Vaches, c'est pas un problème local, c'est bien un problème national qui va encore être aggravé par la loi Duplomb 2 qui relève tous les seuils et qui permet à l'agro-industrie de tout polluer, de tout détruire. Et en faisant croire aux agriculteurs et agricultrices que c'est les sauveurs de leur profession, alors qu'en fait... Tous les agriculteurs, agricultrices qui vont être intégrés dans des coopératives comme Sirio vont devenir les sous-traitants uberisés de cette coopérative. Ils s'endettent pour des décennies, ils ne seront plus maîtres de leur exploitation, de leur organisation. Et en cas de problème, évidemment la coopérative va les lâcher puisque la coopérative, ce qu'elle veut, c'est faire de l'argent en fait, c'est tout ce qui l'intéresse. Elle s'en fout de l'agriculture. Autant dire que tout ça est soutenu à mort par la FNSEA, donc par le gouvernement
d'agriculture, qui en profite aussi au niveau au sein des lycées agricoles pour former justement les futurs agriculteurs dans cette logique agro-industrielle. Voilà, sachant que l'agro-industrie, c'est certainement pas l'avenir de l'agriculture.
Alors la loi Duplomb qui va être introduite dans cette fameuse loi d'urgence agricole. On sent quand même le tour de passe-passe un peu là.
Hein. Ah ouais, c'est un scandale qui devrait mobiliser de manière déterminée au-delà de tout. Parce qu'avec là, la crise climatique qui guette, cette captation pour les détériorer des environnements encore habitables, pour la faune, la flore et puis aussi accessoirement pour nous, C'est une catastrophe, en fait. Enfin, on s'en relèvera pas. Et là, pour ce qui concerne Vassivière, on vient quand même après la Bretagne. Donc, c'est-à-dire, on sait ce que ça fait un élevage de porc industriel dans l'environnement. On sait ce que ça fait à l'eau. Et pourtant, ça continue. Donc, le gouvernement Macron, c'est aussi ça qu'il fait. C'est nous empoisonner, nous priver d'eau potable, exactement comme pour l'histoire des méga-bassines à Sainte-Soline. C'est des gens, c'est des prédateurs, en fait. Il faut qu'on s'en débarrasse.
Comment s'organise justement sur le plateau de Vassivière la lutte justement par rapport à cette méga porcherie?
Elle s'organise à différents niveaux. Donc il y a eu le niveau judiciaire qui est encore en cours. Les mairies des villages concernés par cette pollution et par les zones d'épandage sont toutes opposées à ce projet-là. Le syndicat du lac de Vassivière est aussi opposé à ce projet-là. Et ensuite, tous les habitants se sont mobilisés en assemblée. On organise une manifestation le 9 mai. On se retrouve dans une des communes, sur le stade d'une des communes, et on ira déambuler le long des bords du lac jusqu'à une plage connue là-bas de Broussa où on fera un pique-nique. Et puis, on lâchera pas la lutte tant qu'ils n'arrêteront pas ce projet. Voilà.
Quelque chose à rajouter que l'on aurait oublié?
Il faut mettre fin à la cogestion FNSEA, gouvernement. Il faut libérer les agriculteurs et les agricultrices qui sont des travailleurs de ces prédateurs.
Voilà. Eh bien, je vous remercie.
C'est nous.
Salut Léo, salut Sylvia.
Salut Miguel.
Salut Miguel.
Ça va?
Oui, ça va.
J'en ai ça passe va. Bien la journée?
Très bien.
Aujourd'hui, ça va.
Voilà. Okay. Vous êtes venu pourquoi aujourd'hui?
Moi, je me déplace à chaque 1er mai, où que je sois. Et puis, y a énormément de luttes en cours.
Moi, j'habite en Lot-et-Garonne, côté d'Agen. Donc, le 1er mai, il y a beaucoup moins de monde sur Agen qu'à Paris. Et en fait, le 1er mai, c'était aussi l'occasion de passer un moment avec ma sœur et de s'imprégner de l'ambiance de la lutte à Paris.
Vous vous sentez concerné par une lutte en particulier, vous, ou pas du tout?
Oui, moi, c'est beaucoup les luttes écologistes et féministes.
D'accord.
Et aussi anticapitalistes.
D'accord. Et toi, Léo?
Je rejoins ma sœur et aussi l'agriculture. Je suis éleveur.
Ah, t'es éleveur. Éleveur de
bufflone.
Bufflone.
Ouais. Avec ma compagne, on fait de la mozzarella, des bufflone. On fait de la viande aussi, ouais.
Et justement, il y a eu des mobilisations agricoles fortes ces derniers mois.
Alors moi, je suis adhérent à la Confédération Paysanne. J'ai été impliqué sur les luttes contre la politique sanitaire, entre guillemets, mais surtout sanglante de l'État par rapport à la crise de la DNC. D'autant plus qu'on est touché parce qu'on a des bovins, mais aussi par solidarité envers tous les agriculteurs, agricultrices qui se sont fait abattre leurs troupeaux.
Est-ce que la lutte, elle est toujours active? Parce qu'il n'y avait pas que ça comme revendication, il y avait aussi la situation agricole globale. Il y avait le traité Mercosur aussi,
Mercosur,
qui est en discussion. Je ne sais pas quelle est la situation actuellement.
Alors, je ne peux pas dire au niveau national, parce que c'est vrai que je suis
vraiment,
dans mes problématiques.
À, ton niveau, hein.
À mon niveau, en fait, l'hiver s'est terminé. On est pris dans la production, le foin et plein d'autres choses. Et je pense que la lutte sur le terrain, c'est quand même un peu essoufflé par rapport à ça, quoi.
C'est ça, il y a toujours les réalités agricoles, les réalités de production. Et on est toujours en train de courir, parce que moi je suis dans une ferme, dans un collectif, donc en Suisse.
D'accord.
Et donc ça, voilà, il y a le quotidien dans lequel on est pris, ce qui est vrai pour d'ailleurs tout le monde qui travaille. Hein. Mais c'est vrai, en agriculture, on est lié à la météo, les bêtes, donc ça, ça peut être une pression supplémentaire.
T'es pas dans les bouffes?
Non, moi j'habite en Suisse, dans un collectif autogéré, et dans une ferme. Et donc, on est à la fois en partie en autonomie au niveau agricole, et c'est aussi un collectif politique, donc on a des actions de solidarité.
Et qu'est-ce que tu produis, toi, dans ta ferme?
Alors, nous, dans notre ferme, on a du maraîchage, et puis... donc, c'est surtout pour l'autoconsommation.
D'accord.
Et on a des brebis, des abeilles, voilà.
Vous arrivez à être autonome, autosuffisant?
Non, non, non. Et puis, on a besoin de faire des recherches de financement pour aider notre collectif à vivre, en fait.
D'accord. Le collectif, il a un nom particulier ou...
Oui, ça s'appelle Longomaille. Il y a plusieurs coopératives en Europe et il y en a plusieurs en France, dans le sud de la France.
En ce moment, on parle beaucoup de la variation climatique et du fait que ça se réchauffe. Est-ce que vous faites partie des productions agricoles qui sont fortement impactées ou
Je pense que nous, en tant qu'éleveurs, on est moins impactés que les céréaliers, par exemple, les arboriculteurs. Par contre, on a eu beaucoup d'eau entre janvier et février. C'était compliqué pour sortir les animaux parce que les terres risquaient d'être abîmées. Et après, en fait, ça fait 2 mois qu'on est en sécheresse, en tout cas qu'il pleut pas. Et ça, c'est une autre problématique, c'est que par rapport à la pousse de l'herbe, on commence à être inquiet sur notre autonomie pour nourrir les animaux.
Bonne raison d'être là, en tout cas, ça c'est sûr. Bon, merci beaucoup, en tout cas.
Merci à toi, Miguel.
Pas de soucis, ce fut un plaisir.
Partagé.
Vous êtes toujours dans l'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et pour la suite de cette émission, nous nous déplaçons à Marseille en vous diffusant le reportage réalisé lors de la journée du 1er mai 2026.
Au nom de l'intersyndicale, nous condamnons fermement les événements qui se sont passés hier avec la flottille de Gaza et nous exigeons la libération de tous les militants de la paix qui ont été kidnappés par l'armée israélienne. Mes camarades, aujourd'hui nous nous sommes réunis en intersyndicale avec ce slogan « Le 1er mai nous appartient, de l'argent pour nos salaires, pas sur la guerre ». Nous sommes dans un contexte où l'année prochaine, peut-être, nous allons avoir un gouvernement d'extrême droite. Et ça, c'est à nous, les camarades, nous les syndicalistes, nous le monde du travail, les représentants du monde du travail, de faire l'unité des travailleurs pour éviter cela. L'extrême droite sera toujours l'ennemi des travailleurs. Ceux qui veulent nous asservir, ceux qui veulent nous diviser et qui prêchent la haine seront toujours les ennemis des travailleuses et des travailleurs et nous serons toujours face à eux. Les camarades, le 1er mai nous appartient, pas seulement pour le symbole, alors qu'on n'oubliera pas les luttes de nos anciens, tout ce qui a été acquis par la sueur et le sang, mais c'est aussi un symbole des luttes à venir, des luttes de tout ce qui nous reste à conquérir en termes de salaire, de conditions de travail, d'égalité, de paix. Mes camarades, il y a un grand chantier qui s'ouvre à nous. On ne se laissera pas entraîner dans l'économie de guerre. Nous ne laisserons pas nos enfants aller se trouver la peau. Nous ne serons pas les complices d'une économie de guerre et des génocides actuels. Les travailleurs du monde entier sont solidaires. Cette journée en est la preuve. Nous manifestons ensemble et ensemble nous disons non à la guerre, mes camarades. Enfin, nous avons besoin d'un salaire pour vivre et pas pour survivre. Alors mes camarades, en cette journée de lutte, maintenant, nous avons manifesté, nous étions 30 000. Demain, dans la rue, nous devons être plus pour aller chercher le progrès social, mes camarades. Je vous donne rendez-vous dans la rue.
C'est pas qu'un jour férié. Hein. On veut faire croire aux gens que c'est un jour férié comme les autres jours fériés. C'est pas Noël, le 1er mai. C'est l'anniversaire d'un moment révolutionnaire, de lutte, de la classe ouvrière. Et ça, dans le monde entier, il faut le dire, il y a un soutien absolu de toute la classe ouvrière dans le monde entier. Face à un système capitaliste qui, lui, a le pouvoir d'un point de vue international, il faut un rapport de force. Ce rapport de force, malheureusement, il devient de plus en plus faible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un jour qui est plus que symbolique, mais qui appelle à la résistance, à retrouver le sens du collectif. Voilà. Et donc faire face quand même à ce monde insensé d'hyperconsommation, voilà, d'exploitation qui continue, de gens qui sont dans la misère par rapport à des gens qui sont milliardaires. Voilà. Donc on est là pour résister.
Vous avez fait plusieurs 1er mai, dirais-je.
Oui, comme tous les anciens jeunes, oui.
Alors, est-ce que tu peux, par exemple, me raconter un de tes plus jolis souvenirs du 1er mai?
Ben, je me souviens d'un 1er mai où le port, où la majorité des travailleurs étaient des dockers, avait décidé ce jour-là de manifester avec les engins élévateurs, etc. Et j'avais assisté. Ils avaient un énorme, je ne sais pas comment ça s'appelle, un Clark. Et ils s'étaient amusés à soulever un camion de CRS. Et par provocation peut-être, ils étaient rentrés dans ce camion, ils avaient piqué les casques, les matraques, etc. Et je me souviens d'un petit cortège très particulier à ce moment-là, où c'était pour la première fois des CRS manifestés avec les travailleurs de Marseille. Voilà. Et ça, c'était, je pense, c'était dans les années 70, par là. La rue est à nous. Et la violence, elle est du côté du pouvoir, pas du côté des gens qui résistent et qui se battent dans la rue d'une manière souvent pacifique. Voilà. Maintenant, si on nous attaque, il faut se défendre. Voilà.
Pourquoi est-ce que c'est important aussi ce 1er mai, là, alors qu'au municipal, on a eu un peu peur aussi?
C'est vrai que le Front National a fait un gros score. Pas qu'à Marseille, d'ailleurs, mais dans la France entière, on voit les idées d'extrême droite progresser. Et évidemment, souvent, le fascisme a été mis en place par le peuple. Ça, il faut le dire. Parce que les idées fascistes, son terreau, c'est l'ignorance, c'est le désengagement. Et là, il joue sur du velours parce que de plus en plus, malheureusement, les gens, sans parler que des travailleurs, mais se désengagent. Il y a un sens du collectif qui a disparu. On est dans un système très individualisé où on veut faire croire aux gens que tout seul on peut s'en sortir, alors que non. Il faut vraiment instaurer des rapports de force de plus importants que ce qui existe aujourd'hui, parce que ce qui risque de nous arriver, justement, c'est de basculer dans des pouvoirs fascisants et liberticides, on le sait. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a certaines municipalités tenues par le RN qui ont refusé et qui ont interdit les manifestations du 1er mai. C'est gravissime. On redécouvre leur véritable identité à ces gens-là. Donc attention, danger, vigilance. Aujourd'hui, il y a du monde, mais il n'y en a pas assez. Il n'y en aura jamais assez face aux idées du fascisme.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, cher ami.
C'est news, ils sont libres.
Ils sont libres de dire de la merde. Est-ce qu'on a 5 minutes pour se parler? Là, vous êtes en cortège. Est-ce que tu peux me dire, c'est le cortège de qui et on est où?
Alors, nous, on est à Marseille et on est dans le cortège de l'énergie. Moi, je suis secrétaire général du syndicat de CGT Énergie Marseille. Et donc, on manifeste aujourd'hui le 1er mai en tant que travailleur dans le cadre de la Journée internationale des luttes des travailleurs.
Pourquoi c'est important pour vous d'être présent là aujourd'hui?
Très important parce que, comme tous les 1er mai, pour nous, c'est important déjà de base, parce que c'est une façon de rendre hommage aux combats du passé et s'inspirer de ces combats-là pour envisager des combats d'avenir, on va dire. Donc déjà, c'est pour nous, c'est très important, puisque ça rend hommage à toutes les luttes, les morts depuis 130 ans qu'il y a eu dans le monde du travail, l'accès aux congés payés, l'accès à la journée de 8 heures, l'accès à tout notre contrat social qu'on peut vivre encore aujourd'hui un peu avec dignité. Ils viennent des combats de tous ceux qui se sont passés derrière. Donc le 1er mai, il est le symbole de ça. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Et après, on est là aussi dans un cadre où justement, cette histoire, le capital veut nous la voler. Puisque quand il s'attaque au 1er mai, ce n'est pas anodin pour nous. À vouloir lever cette date et pas une autre. Parce qu'un jour férié, en vérité, pour eux en tout cas, un jour férié, ça pourrait être un autre. Hein. Ils pourraient dire Noël.
Bien sûr.
Mais Noël, personne ne touchera. Donc on s'attaque à ce que le monde ouvrier, il a pu créer en fait. Donc c'est pour ça que c'était encore plus important ce 1er mai pour nous d'être dans la rue, parce qu'on a un capital aujourd'hui qui se fascise de plus en plus et qui veut justement voler non seulement la condition, la dignité des gens à travailler, à vivre de leur travail, mais en plus voler l'histoire ouvrière, histoire d'anéantir tout espoir de monde meilleur, entre guillemets. Donc c'est pour ça que pour nous, c'était pas anodin s'ils se sont attaqués là à l'histoire du 1er mai. C'est parce qu'ils savent très bien, eux, d'où vient le 1er mai et qu'ils ont justement envie qu'on n'en parle plus de cette date-là, quoi.
On a eu l'actualité des municipales aussi sur Marseille et c'est l'unité dans la lutte qui sera peut-être encore le meilleur rempart contre le passage du Rassemblement National.
C'est l'unité du monde du travail contre le capital, pour moi. Voilà. C'est-à-dire ceux qui vivent vraiment de leur travail, c'est-à-dire ceux qui produisent des richesses avec leur travail, contre ceux qui exploitent le travail de notre travail et qui en fait eux ils travaillent pas, parce que les capitalistes pour moi ils travaillent pas, c'est à dire ils sont là juste pour prendre leur part sur notre dos. Donc bizarrement ils arrivent à mettre dans les têtes que c'est l'inverse en fait qui se passe. Voilà. Bon, après vis-à-vis des municipales, ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, le capital se renforce avec l'aide de la fascisation de la société, la mise en concurrence de tout le monde. Voilà,
les uns contre les autres.
Voilà, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils disent voilà, ben, à nous, travailleurs français, ils disent ben, si vous souffrez, c'est pas notre faute, c'est la faute des travailleurs des étrangers. Voilà, donc vaste fumisterie. Mais force est de constater qu'une grande partie même des travailleurs, ils sont perdus dans ce combat politique et qui aujourd'hui se, se, se laissent avoir par des discours séduisants, qui paraissent séduisants en tout cas. Et donc c'est vrai que l'unité du monde du travail, mais pour moi le monde du travail, ça va au-delà des syndicats, ça va dans les syndicats, ça va dans les partis politiques progressistes, parce que bon, il y en a marre aussi de toutes ces petites disputes qu'ils ont les uns entre les autres. Hein. Nous, on fait partie d'un peu de ceux qui pensent qu'il faut à un moment donné faire l'unité la plus large dans le monde du travail, de ceux qui sont conscients déjà d'être des travailleurs, et pour justement un peu changer la perception des choses dans la société, surtout en vue de l'année prochaine.
Spécifiquement, là, toi, tu es de la CGT Énergie. Oui. C'est quoi vos combats à vous, vos perspectives de combat au local aussi?
Alors nous, on se bat depuis des années sur le fait de faire en sorte que l'énergie redevienne un bien commun, puisqu'on était jusqu'en 2005-2007 une entreprise nationalisée, EDF-GDF, ce qui faisait qu'on avait une électricité, l'électricité, le gaz le moins cher d'Europe, avec une qualité de service qui était... C'est-à-dire EDF, c'était une entreprise mondiale, une des premières entreprises d'énergie mondiale. Donc niveau industrie, on s'y retrouvait, les travailleurs s'y retrouvaient parce qu'on avait un bon contrat social, et les usagers s'y retrouvaient en termes de services publics et en termes de tarifs. Et on est en train de faire la démonstration qu'après 25 ans de casse et de privatisation, aujourd'hui personne s'y est retrouvé, à part les capitalistes comme d'habitude. Ouais. Et les gens payent plus cher. Les travailleurs, leur contrat social, il est de plus en plus mis en danger, c'est-à-dire que sur le recul. Et la qualité de service rendu et la sécurité des installations, elle est plus assurée. Donc nous, on est en train de mener ce combat, ça c'est un combat national dans notre fédération. Et on participe fortement à Marseille dans ce combat, parce qu'on rencontre généralement, régulièrement le préfet et d'autres acteurs locaux pour montrer justement, pour démontrer avec des actes concrets, puisque quand on voit l'état des réseaux électriques à Marseille, avec des postes qui sont arrachés à côté des écoles, etc. On en a vite la démonstration que, en fait, tout l'argent qui sort du secteur énergétique, il sert à alimenter des dividendes et pas à sécuriser les réseaux, et pas à aller dans les salaires, et pas à aller dans une baisse des tarifs pour les usagers. Donc c'est un peu le combat sur le long terme quand même dans notre fédération.
Votre fédération, elle a été extrêmement active lors de la dernière réforme des retraites. On vous a trouvé quand même en avant de tout du mouvement, avec de nombreuses actions et des revendications très claires. Et c'est super intéressant aussi de passer directement aussi par l'action avec les Robins des Bois, de mettre en avant ce qu'on voudrait véritablement.
Ben, nous, ce qu'on a voulu démontrer à l'époque, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a été, on le paye encore en ce moment, hein, il y a plus de 400 dossiers de répression et de criminalisation de militants syndicaux et de travailleurs dans notre secteur énergétique, suite à la grève de 2023. Et ce qu'on a voulu démontrer, c'est que sans les travailleurs, rien ne se fait. Voilà. C'est-à-dire que si on a envie de basculer déjà en gratuité, on sait le faire. Et entre guillemets, c'est le pouvoir qu'on a entre nos mains, c'est le pouvoir technique qu'on a en tant que travailleurs qui, nous, on produit les richesses. Les autres, ils nous se les accaparent, mais nous, on les produit. Et c'est nous qui sommes en possession de l'outil de travail. C'est ça qu'on a voulu faire comme démonstration. Je pense qu'on y est bien arrivé parce que ça a marché, même si on a dû le payer derrière avec la répression, la criminalisation, etc. Mais justement, ça démontre aussi que ce pouvoir qui paraît très fort en apparence, en réalité, il est très faible. Voilà. Et si la conscience de classe, elle revient dans le pays, et si les travailleurs sont conscients tous, à leur échelle, comme on a su le faire dans l'énergie, que ceux qui possèdent les outils de travail, ceux qui produisent les richesses, c'est ceux qui travaillent tous les jours. Voilà. Et si à un moment donné, cette idée-là, elle s'ancre dans le monde du travail et dans les travailleurs eux-mêmes surtout, c'est à ce moment-là, je pense, moi, qu'on pourra changer beaucoup de choses. Voilà. Et que le pouvoir, il sera balayé, parce qu'il n'y a rien qui est plus fort que ça. D'ailleurs, ils ont été carrément en panique dès qu'on a commencé à faire ça. Le pouvoir, et ce n'est pas sur l'aspect économique. C'est sur l'aspect, on maîtrise plus rien. Ouais. C'est ça qui leur fait le plus peur. C'est pour ça qu'ils ont cherché la répression, pour faire peur. Pour faire peur aux travailleurs qui s'y mettaient, en fait. Et voilà, donc après, mais bon, c'est pour ça qu'on est convaincu que c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Ouais. Après, bon, il y a tout le travail pour le retrouver, que c'est pas évident.
Voilà. Mais c'est à nous de ne pas accepter le discours d'impuissance qu'on nous vend tout le reste de l'année.
Ah ben ça, c'est la base de tout, et c'est ça qu'on voit dans le salariat aujourd'hui. Le problème, c'est que le salariat, il est en mode défensif trop. Il ne se rend pas compte de la... Et les patrons font tout. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils appellent les salariés collaborateurs maintenant. Ouais. Ils essayent de les, ils essayent de se les mettre dans la poche pour leur donner un petit peu de genre de valeur. On est collaborateurs, puis le jour où il faut fermer une entreprise, on vous dégage tout, c'est pas un problème. Donc ils les mettent dans le mensonge en permanence. Les salariés sont sur la défensive, en mode merci patron de me donner un travail, et pas l'inverse. Si tu m'embauches, c'est pour te prendre des sous sur mon dos. Donc ça se respecte. Et donc le schéma mental, c'est plus le même.
Ouais.
Et c'est ça que les salariés n'arrivent pas. Le patronat a réussi à intégrer avec l'outil de propagande des médias qui se sont servis pour faire en sorte que les salariés surtout restent dans cet état d'esprit et même aillent encore plus loin dans l'asservissement de leurs propres conditions en fait. Et c'est contre ça, je pense, qu'il faut qu'on se batte au maximum. Parce que si on veut faire masse, c'est comme ça qu'il faut le faire. Parce que sinon, on ne sera qu'une minorité à avoir conscience des choses et ce n'est pas la solution. Enfin, en tout cas, pour moi, ce n'est pas la solution.
Ben, merci beaucoup, en tout cas.
De rien.
Et bonne journée.
Et bonne journée, bon 1er mai.
Pareil. Bonjour, est-ce que tu peux me dire où on se trouve?
On se trouve à la porte d'Aix. On vient de finir la manifestation du 1er mai. Et elle s'est bien passée et on est quand même satisfait de la mobilisation d'aujourd'hui.
Est-ce que tu peux me dire de quel syndicat tu appartiens, s'il te plaît?
Syndicat CGT du Grand Port Maritime de Marseille.
Ok. Pourquoi est-ce que c'était important d'être là?
Aujourd'hui, on essaye de nous vendre le 1er mai comme un jour un peu banal comme les autres. Mais le 1er mai, il ne faut pas oublier que c'est quand même la fête des travailleurs. Quand on se rappelle un petit peu l'histoire, comment ce jour a été arraché aux grandes instances et à l'État, aujourd'hui, je pense que le 1er mai, c'est une date très très particulière et c'est pour ça que quand on se retourne, qu'on voit tout le monde aujourd'hui qui est présent sur la place, le message, il résonne à travers la ville.
Ouais.
Et à travers les travailleurs, à travers les discussions que j'ai pu avoir là, je trouve quand même les gens vachement remontés à travers les attaques du gouvernement sur ce jour-là. Voilà.
Marseille, c'est une ville qui a changé. C'est une ville dont on essaye d'effacer aussi un peu la mémoire ouvrière en la rendant touristique.
Il y a encore l'industrie à Marseille. Marseille, ce n'est pas que les croisières, ce n'est pas que se promener dans les quartiers, au panier, à la plaine. C'est pas que ça. Il y a des travailleurs mobilisés avec des vraies revendications. Et Marseille, c'est tout ça, et c'est une ville cosmopolite, tout le monde se mélange. Mais le travail, il y a quand même des travailleurs à Marseille, il y a des ouvriers, et il y en a beaucoup. Il faut qu'ils restent là, surtout.
Alors c'est quoi un peu, vos enjeux là, dans le syndicat au quotidien? Face à quelles attaques vous devez vous organiser? Vous devez faire face à quoi, là?
Là, aujourd'hui, on doit faire un petit peu, faire face à l'ouverture du port, ouais. À quelque part, à déstructurer le port. À l'intérieur des bassins, l'enjeu, c'est de créer des vrais trafics stables, durables, pour développer et renforcer l'économie marseillaise, le tissu local marseillais. Il ne faut pas oublier que le port de Marseille, c'est 42 000 emplois indirects, 14 000 sur Marseille. Donc, c'est quand même des gros enjeux.
Carrément. Justement, on a vu aussi se développer les questions de sous-traitance, etc.
Le problème de la sous-traitance, si on me parle de sous-traitance, je vais revenir sur... le besoin réel de formation. Clairement, il y a des métiers qui sont en train de disparaître et les employeurs font appel à la sous-traitance parce qu'ils nous expliquent qu'on n'a pas les compétences à travers le tissu local. Donc il faudrait quelque part renforcer la formation de nos jeunes dans nos quartiers pour pouvoir à un moment donné leur permettre de pouvoir venir travailler sur le port avec des compétences qui nous manquent sur le territoire.
Est-ce que tu peux me donner un ou deux
exemples? Steurs, chaudronniers, tous des métiers en tension qu'aujourd'hui la France ne crée plus. Ce qui est dommage, c'est que quand on se retourne devant les bassins de Radou, derrière les grilles du port, il y a les quartiers nord. Ouais. Et dans ces quartiers, malheureusement, il y a 35% de chômage. Et si on leur donne la possibilité de pouvoir les former et de leur donner un avenir à travers le port, je pense qu'on a vraiment un vrai rôle à jouer là-dedans et de construire les choses à travers ces échanges, les entreprises, les partenaires sociaux. Et si tout le monde y met un peu de la bonne volonté, je pense qu'on peut créer quelque chose, un bon système pour pouvoir intégrer la jeunesse marseillaise à l'intérieur du port. On ne peut pas regarder d'un côté à 300 mètres, pointer les gens du doigt, dire il y a 30%, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, en sachant qu'à l'intérieur de l'autre côté des grilles, on est obligé de faire appel à de la main-d'œuvre étrangère parce qu'on ne trouve pas les compétences sur le territoire. Il y a un manque de cohérence flagrante et justement, à travers l'école des métiers de la mer, c'est un projet qu'on aimerait voir aboutir pour pouvoir vraiment donner un peu la priorité à tous ces jeunes des quartiers en les formant et en pouvant doucement, au fur et à mesure, les intégrer dans les entreprises présentes sur le port. Si on veut réconcilier les habitants et les portuaires, ça va être par le travail.
Peut-être pour ça que c'est important des jours comme ceux-là, parce que ça permet justement une transmission aussi des outils de la lutte, du discours.
Oui, c'est ça. À travers, entre camarades là, il y en a qui viennent avec leurs enfants. Il ne faut pas oublier que la CGT, au niveau national, c'est la représentativité de la Convention collective nationale unifiée des ports et docks. La CGT, c'est plus de 90% au niveau national. Donc, il est vrai que la CGT a un vrai rapport de force à travers les ports. Quelque part, c'est un vrai moyen de pression pour nous. Et heureusement qu'à travers notre fédération, on s'y retrouve et qu'on reste costaud à ce niveau-là. Déjà que les travailleurs se rassemblent, échangent, et pour être le plus possible et surtout d'éveiller les consciences des personnes au quotidien et de continuer là-dedans pour grossir.
Ben merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info.
Je pense qu'on aura nos places si on ne change pas le système radicalement.